Le journal Anne-Laure Chouin, bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Des enfants gardés de force dans les territoires ukrainiens occupés par les Russes, ils ont pu rentrer chez eux grâce aux associations, nous entendrons leur témoignage au début de ce journal.
Le Congo accuse Apple d'utiliser des métaux illégalement extraits de ses mines. Kinshasa met en demeure la firme américaine.
Et puis en France, le Conseil des sages de la laïcité voit un de ses membres destitué, le sociologue Alain Policard. Nous l'entendrons. Après ce journal, Marguerite Caton, quelle question du jour ?
Faut-il se fier aux agences de notation ?
Réponse à 7h15. Il n'est pas trop tard pour que l'Ukraine l'emporte. C'est ce qu'a déclaré hier le chef de l'OTAN en conditionnant cette potentielle victoire à ce que les Occidentaux tiennent leur promesse de fournir davantage d'armes. Lors d'un discours hier à Berlin, Jens Stoltenberg a regretté en effet que ces derniers mois, les alliés de l'OTAN, l'Allemagne en particulier, n'aient pas apporté le soutien promis. Sur le terrain, les Ukrainiens commencent à panser les plaies de l'invasion russe dans les territoires de l'Est, grâce notamment au travail d'association. Focus ce matin sur celui de l'ONG Save Ukraine qui a réussi à faire rapatrier plusieurs dizaines d'enfants ukrainiens qui avaient été enlevés à leur famille, souvent à l'occasion de colonies de vacances où ils avaient été maintenus de force pendant des mois. Agathe Mahué, envoyée spéciale sur place, a pu constater que le retour dans les familles est parfois difficile. Son reportage avec Yachar Fazilov.
Diana a 15 ans. Elle vivait encore avec sa famille à Kherson au début de l'automne 2022, quand les autorités d'occupation russes ont mis en place ces colonies de vacances obligatoires.
Le professeur nous a distribué des formulaires à remplir en nous expliquant qu'on était tous obligés de partir en colo en Crimée.
Avec son petit frère et sa petite sœur, elle se retrouve loin de ses parents, officiellement pour 2 semaines seulement. Mais les Russes ne les laissent pas repartir. 6 mois s'écoulent avant que l'association Save Ukraine ne parvienne à les extraire de Crimée.
Quand j'ai retrouvé ma mère, elle avait plein de larmes, elle nous embrassait en nous disant « Je ne vous lâcherai plus jamais ».
Pourtant, les semaines qui suivent leur retrouvailles ne sont pas simples.
Au début, je ne voulais pas être près de mes parents. Je sais pas, j'étais un peu fâchée contre eux.
Ces séances de thérapie l'aident, mais pour Olena, la psychologue de l'association, les blessures sont bien réelles.
Ils ont des troubles du sommeil ou du comportement alimentaire. Ils ont été séparés longuement de leur famille, donc il faut recoudre petit à petit ces relations.
Diana, elle, dit qu'elle était devenue là-bas comme une deuxième mère pour son petit frère et sa petite sœur. À leur retour, la famille a dû quitter Kherson. Tous reconstruisent peu à peu leur vie désormais ensemble à Kiev.
Kiev, où le gouvernement a fait voter il y a peu une nouvelle loi obligeant au recensement militaire de tous les hommes ukrainiens de 18 à 60 ans vivant à l'étranger, avec l'objectif clair de les rapatrier pour aider à l'effort de guerre. Or, ils sont nombreux en Pologne, voisine, où les autorités ont promis leur aide à l'Ukraine sur ce sujet. Une annonce très difficile à comprendre pour la diaspora ukrainienne vivant sur le sol polonais. Le reportage à Varsovie du correspondant de France Culture, Adrien Sarla.
Au centre d'aide pour les réfugiés ukrainiens de Varsovie, la nouvelle a de quoi surprendre. Pour Lena, 58 ans, renvoyer les hommes en âge de se battre vers l'Ukraine n'a pas de sens.
Ceux qui étaient patriotes, qui pouvaient se battre, sont déjà là-bas. Ceux qui restent, ce sont ceux qui ne se voient pas manier une arme, ceux qui ne s'imaginent pas tuer quelqu'un ou ont simplement peur.
Une peur que Natalia s'efforce elle aussi de comprendre.
Ces hommes devraient défendre le pays, mais cette mesure, c'est juste une façon de retarder l'intervention des pays occidentaux, une fois que tous nos hommes seront morts.
Alexandre a 60 ans, il n'est donc plus en âge d'être mobilisé, mais il l'assure, être à l'étranger ne fait pas de lui un mauvais patriote.
Mes enfants vivent en Pologne depuis plus de 6 ans. Et je ne dirais pas qu'ils ne sont pas patriotes, car ils sont dans tous les groupes d'aide. Ils recueillent des fonds pour l'armée, ils tissent des filets de camouflage militaire, et ce qu'ils font est nécessaire. Je pense même qu'ils sont plus utiles ici qu'en Ukraine.
Aujourd'hui, 93% des hommes ukrainiens travaillant légalement en Pologne ont entre 20 et 59 ans. Si la Pologne met sa menace à exécution, ils risquent d'être reconduits de l'autre côté de la frontière.
Les États-Unis ont commencé la construction d'une jetée à Gaza en vue d'acheminer plus facilement l'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne, dévastée toujours par les bombardements israéliens. Encore cette nuit près de Rafah, l'État hébreu continue de pilonner. Depuis quelques jours, une offensive israélienne critiquée par la plupart de ses alliés semble être imminente dans cette ville frontière avec l'Égypte. On y reviendra dans le journal de 8h. un trafic de minerais au profit du géant du numérique Apple. C'est ce que dénoncent en tout cas les autorités de la République démocratique du Congo, qui met la firme américaine en demeure. Elle l'accuse d'utiliser dans la fabrication de ses appareils des minerais extraits illégalement des mines congolaises, contrôlées par des groupes armés et exportées pour être blanchies vers le Rwanda. Kinshasa exige donc du géant américain de la tech de répondre à ces questions d'ici 3 semaines, sous peine d'engager une action judiciaire. Les précisions de Valérie Crova.
Tantale, tungstène, étain, le sous-sol de la RDC en regorge, en particulier dans la province du Kivu, frontalière du Rwanda. Autant de métaux précieux pillés par les groupes armés, dont le puissant M23, en guerre contre le gouvernement central de Kinshasa. Aucun ordinateur ni téléphone portable ne peut être fabriqué sans ces très chers minerais. Leur extraction se fait non seulement illégalement, mais aussi en violation des droits humains. Plusieurs ONG ont eu l'occasion de dénoncer à maintes reprises le travail forcé des enfants dans les mines de l'Est du Congo. Une fois extraits, ces minerais sont ensuite importés par contrebande au Rwanda, selon les avocats français mandatés par l'État congolais, puis distribués sur le marché mondial et achetés par des entreprises comme Apple. La multinationale se retranche derrière un code de bonne conduite éthique fourni à ses sous-traitants, sans toutefois être en mesure d'affirmer que ce code est bien respecté durant toute la chaîne d'approvisionnement. Apple, qui renvoie par ailleurs à son rapport annuel de 2023, la firme y indiquait n'avoir trouvé aucune trace de minerais ayant bénéficié à des groupes armés en RDC.
Un nouveau procès pour le producteur de cinéma Harvey Weinstein, c'est ce qu'a décidé hier une cour d'appel de New York qui a annulé l'une des condamnations pour viol et agression sexuelle du producteur. Donc, les accusations à son encontre avaient déclenché, on le rappelle, le mouvement MeToo. Les juges ont estimé que des témoignages portant sur d'autres faits que ceux commis contre les plaignantes avaient été admis de façon erronée en première instance. Harvey Weinstein reste tout de même en détention en vertu d'une peine de 16 ans pour un procès distinct.
7h07 sur France Culture, la suite du journal d'Anne-Laure Chouin, une destitution et des questions au Conseil des sages de la laïcité.
Cette institution avait été créée par Jean-Michel Blanquer en 2018. Elle rassemble plusieurs experts et universitaires censés aiguiller la position de l'éducation nationale en matière donc de laïcité. Institution ensuite élargie à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme par Pape Ndiaye. Or, on apprenait hier la destitution du sociologue et chercheur associé au CEVIPOF, Alain Policard, démis de ses fonctions par l'actuel ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet. Elle estime que des propos sur le port du voile qu'il a tenu début avril sur RFI tendraient, je cite, à amoindrir la loi de 2004 qui interdit le port de signes religieux ostentatoires à l'école. Julie Paco.
Alain Policard estime en effet que l'application de la loi de 2004 est difficile et génératrice de tensions et que le port du voile devrait donc être analysé chaque fois, au cas par cas. Or, la loi, dit-il, ne permet pas cette analyse fine.
J'avais dit que le voile n'était pas toujours un signe de prosélytisme. J'ai simplement voulu rappeler les motivations qui étaient avancées par les jeunes filles voilées, d'échapper en quelque sorte par la conformité à la pression de leur milieu et d'espérer gagner ainsi un espace de liberté. Je ne faisais pas mienne cette thèse du gain de liberté. Je disais simplement, c'est la stratégie que certaines développent quand on lit les enquêtes de sociologie. En tant qu'expert, je pensais garder une totale liberté de parole, d'autant que jamais je ne m'étais exprimé au nom du Conseil des sages.
Or, cette parole est incompatible avec la qualité de membre du Conseil des sages de la laïcité, estime la ministre de l'Éducation nationale, qui considère la loi de 2004 comme un socle indéboulonnable. Mais le sociologue, dont la nomination par l'ancien ministre Pape Ndiaye a suscité il y a un an une levée de boucliers de la droite, y voit, lui, la concrétisation d'une volonté d'épuration, dit-il, au sein d'une instance où sa position est aujourd'hui devenue minoritaire.
Je passe pour un zélateur du voile, pour un partisan de l'entrisme islamiste. C'est absolument invraisemblable d'erreur. Enfin, je pense qu'il y a des pressions. Et mon sentiment est que le mot d'ordre du pouvoir est l'autorité et que, en quelque sorte, c'est faire acte d'autorité que d'évincer quelqu'un qui a une position critique à l'égard de la loi de la République.
Contacter le cabinet de Nicole Belloubet se défend de toute chasse aux sorcières ou d'entrave à la liberté d'expression et insiste sur la laïcité à l'école. Il ne peut pas y avoir d'ambiguïté.
Démocratiser et développer la science dans les médias, c'est l'une des missions de l'audiovisuel public. Or, France Télévisions pourrait mettre en faillite cette mission. C'est ce dont s'inquiètent 9 associations de journalistes spécialisés dans une tribune du journal Libération hier. Ils dénoncent la disparition progressive des programmes scientifiques à la télévision publique, des suppressions d'émissions dues à des audiences en baisse. Écoutez à ce propos Caroline Châtelain, présidente de l'Association des journalistes scientifiques de la presse d'information. Elle est interrogée par Pierre Repère.
Depuis quelques mois, France Télévisions annonce la fin d'émissions emblématiques. La dernière annonce, c'est la suppression d'une émission sur France 5 qui existait depuis 2018 et qui s'appelait Vert de rage, qui permettait de faire remonter des enquêtes aussi bien sur l'amiante que sur la pollution dans le métro, enfin toutes sortes de sujets sur du temps long. Également, l'annonce de la suppression d'une émission qui a 25 ans et qui s'appelle le Mac de la santé, donc ça aussi c'est inquiétant. Et France Télévisions est un service public qui se doit de donner une information de qualité à ses téléspectateurs. Et on a le regret de constater que ce n'est pas le cas, d'autant qu'il y a certains talk shows dans lesquels certains experts sont invités sur plateau et qui sont tous sauf des scientifiques et pourtant se permettent des opinions. La science, ça demande de vraies connaissances. Il nous semble aujourd'hui qu'il n'y a jamais eu autant besoin de science dans le contexte d'après-Covid où nous avions déjà vu des dérives. Je rappelle aussi que nous sommes dans un contexte de dérèglement climatique. Il faut savoir de quoi l'on parle. Et il y a vraiment urgence parce que le service public prenne conscience du rôle qu'il a à jouer dans le monde que nous vivons et dans les mutations que nous vivons actuellement, parce que nous avons peur que ce rôle de service public ne soit pas tenu.
Et contacter également la direction de France Télévisions n'a pas donné suite. Le cinéma français est en deuil. On a appris hier la mort de Laurent Cantet, qui avait notamment décroché la Palme d'Or à Cannes pour son film Entre les murs, récit de la vie dans un collège parisien avec des comédiens amateurs, dont l'écrivain François Bégodeau. Laurent Cantet est mort hier à l'âge de 63 ans de maladie. Il avait obtenu son premier succès public en 2000 avec Ressources humaines. En 2014, dans l'émission Hors champ sur France Culture, Laurent Cantet évoquait son travail de metteur en scène au micro de Laure Adler.
De plus en plus, j'ai le sentiment que ma mise en scène, mon boulot, c'est de créer le dispositif qui va permettre que les choses arrivent. Pour Entre les murs, c'est vrai que la stratégie, c'était de créer d'une part une ambiance de confiance suffisamment forte entre les acteurs et moi, répéter suffisamment comme on entraîne des sportifs pour que l'improvisation devienne quelque chose d'évident et de simple pour eux. J'aime bien imaginer que je capte des choses plutôt que je ne les fabrique.
Un sentiment partagé par ces acteurs à l'image de Marina Foïs qui a joué dans l'un de ses films en 2017. L'atelier, histoire d'une écrivaine qui anime un atelier d'écriture pour des personnes en insertion. Elle lui a rendu hommage hier sur France Info.
Ce qui l'animait vraiment, Laurent Cantet, quand il faisait du cinéma, c'était la recherche du sens. Et la recherche du sens, ça se faisait tout le monde en même temps. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas le temps des acteurs, le temps de la lumière. Il emmenait tout le monde avec une autorité certaine, mais un calme olympien, beaucoup de rigueur et beaucoup d'humilité. En fait, il nous prévenait les uns et les autres des mouvements d'ego qu'on pourrait avoir et qui nous plantent nous-mêmes. Et moi, il m'a protégée de ça et il m'a appris ça. Et c'est quelque chose qui me reste et auquel je pense souvent. Aujourd'hui, on parle du cinéaste auteur tout puissant, du pouvoir qu'il a et qui en abuse, tout ça. Il est une contre-figure de ça et on peut être un auteur en pleine possession de ses moyens, ne pas faire autre chose que partager. Voilà.
Marina Foïs. On termine avec un mot des flammes, ce trophée français du rap et de ses courants créé il y a 2 ans en réaction aux victoires de la musique. Hier, au Châtelet, elles ont sacré pour la 2e année la chanteuse francophone la plus écoutée dans le monde, Aya Nakamura. Chez les hommes, c'est le rappeur Gazo qui, comme l'an dernier, a été sacré artiste masculin de l'année. Les deux artistes avaient aussi été récompensés aux victoires de la musique. Le temps de ce vendredi, une nouvelle dégradation des températures qui remonte un peu. Aucune région n'est à l'abri d'un coup de tonne. Les températures ce matin entre 3 et 11 degrés. Les maximales atteindront 13 à 16 degrés. C'est la fin de ce journal et la suite des Matins de Culture avec vous Guillaume Erner.
Et avec nos remerciements, Anne-Laure Chouin, dans quelques secondes, la question du jour de Marguerite Caton. Dette, faut-il se fier aux agences de notation ?